Eroua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 25 mars 2016. Morgane Guiriac et Michel Joseph en votre compagnie. Au sommaire ce matin.
Présidentielle au Congo-Brazzaville, réaction mitigée suite à l'appel à la désobéissance civile du général Jean-Marie Michel Mokoko.
On vit vraiment de riposter, mais on sait comment le pays fonctionne. Quand vous voulez riposter, c'est tous les agents qu'on met dans les ruelles pour étouffer la population.
La désobéissance civique n'est pas bonne, surtout que nous sachons que lorsqu'on fait la désobéissance civique, nous abîmons ce qu'on a construit.
Au Tchad, la détention de 4 leaders de la société civile opposés à un 5e mandat du président continue de faire des vagues.
Attentat de Bruxelles, la police belge continue de traquer les responsables.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Importante libération d'otages au nord-est du Nigeria. L'armée annonce avoir retrouvé 829 personnes retenues par Boko Haram. Les insurgés islamistes auraient été délogés de plusieurs villages dans la zone de Calabalj.
Présidentiel au Niger, le département d'État américain se dit déçu de l'élection du 20 mars. Washington regrette notamment que les différences entre partis sur la conduite de l'élection n'aient pas été réglées à l'avance. Les États-Unis appellent donc à résoudre ces différends de manière pacifique par le dialogue et la voie juridique. Rappelons que la réélection du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est contestée par l'opposition. Le scrutin a d'ailleurs été boycotté par l'opposition, qui a appelé à la résistance citoyenne.
Au Tchad, la détention de 4 leaders de la société civile opposés à un 5e mandat du président Idriss Déby Itno continue de faire des vagues. L'Union des syndicats du Tchad, qui avait appelé à une grève générale ce vendredi, exige la libération des prévenus. Hier, une quinzaine de Tchadiens ont occupé sans violence leur ambassade à Paris pour dénoncer leur arrestation. Pour leur part, les leaders de 25 partis d'opposition ont fait savoir qu'ils se constitueront prisonniers ce vendredi si les 4 prévenus ne sont pas remis en liberté. Voici leur déclaration, lue par Aladoum Djamar Baltazar, président du parti Alliance Socialiste Tchadienne, pour le renouveau.
Les partis politiques de l'opposition réunis ce jour 24 mars 2016 pour examiner la situation de la violation flagrante des libertés fondamentales par le régime de Déby qui arrête coup sur coup les leaders de la société civile et programme un hold-up électoral pour la présidentielle de 10 avril 2016. Exige la libération immédiate et sans condition de Mme Narmaj Selin et de M. Mamad Nour Ahmad Ibedou, Nadjo Kaina Palmer et Younous Majir, emprisonnés pour avoir voulu exercer un droit constitutionnellement établi comme le prévoient les articles 27 et 29 de notre constitution de 2005 en vigueur. En l'absence de toute concession du gouvernement, les partis politiques de l'opposition politique se constitueront en prisonniers pour les rejoindre à la maison d'arrêt d'Amsinene et ce au plus tard le 25 mars à minuit. Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir comme il est prévu dans le préambule de notre constitution.
Aladoum Djamar Baltazar, président du parti Alliance Socialiste Tchadienne pour le renouveau.
Le Malien Alassane Ould Mohamed a plaidé coupable jeudi à New York du meurtre d'un diplomate américain à l'extérieur d'un restaurant au Niger. C'était en décembre 2000. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Sa victime, l'Américain William Baltimore, âgé de 51 ans, se trouvait en Afrique de l'Ouest pour établir le bureau de l'attaché militaire du département américain de la Défense. Le jour même où il devait rentrer chez lui en Caroline du Nord, deux hommes armés ont ouvert le feu sur lui après avoir demandé les clés de sa voiture. Touché en pleine poitrine à l'extérieur d'un restaurant de Niamey qu'il venait de quitter au petit matin du 23 décembre 2000, il a rendu l'âme. Les meurtriers ont aussi tiré sur un de ses collègues, le sergent Christopher McNeely, qui a survécu. L'un des assaillants a Alassane Ould Mohamed, âgé de 46 ans, a plaidé coupable de complot de meurtre devant le juge William Koontz au tribunal fédéral de Brooklyn. Il risque 25 ans de prison et sera fixé sur son sol le 26 avril. Recherché et arrêté par le Niger, Mohamed, qui était également accusé du meurtre de 4 Saoudiens à la frontière entre le Niger et le Mali en 2000, s'était évadé en juin 2013 après une opération attribuée à des extrémistes liés à Al-Qaïda. Il avait été à nouveau arrêté par des forces françaises dans le nord du Mali en novembre 2013 et extradé par le Mali vers les États-Unis en mars 2014.
Législative au Cap-Vert, les États-Unis saluent le vote libre et équitable de dimanche, un modèle de démocratie en Afrique, félicite Washington.
Tension entre le secrétaire général des Nations Unies et le Maroc. Le Conseil de sécurité souhaite que la mission de l'ONU au Sahara occidental, la MINURSO, puisse recommencer à fonctionner pleinement. Rappelons que Rabat, irrité par des propos tenus par Ban Ki-moon lors d'une visite début mars en Algérie, où il a rencontré des réfugiés sahraouis, a expulsé dimanche la quasi-totalité des experts civils expatriés de la MINURSO et a fait fermer un bureau de liaison militaire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attentat de Bruxelles, la police belge continue de traquer les responsables des explosions qui ont fait 31 morts à l'aéroport de Bruxelles et à la station de métro de Malbec, en plein quartier européen. Les autorités cherchent au moins deux hommes repérés sur les images de vidéosurveillance avec les trois kamikazes. Six personnes ont été arrêtées jeudi soir à Bruxelles par la police dans le cadre de l'enquête, a indiqué le parquet fédéral à l'AFP. Trois d'entre elles ont été interpellées.
La chaîne de télévision américaine NBC révèle également que les deux frères Khalid et Ibrahim Al-Bakraoui, qui se sont fait sauter à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles, figuraient dans les fichiers antiterroristes américains. Ibrahim El-Bakraoui avait été arrêté en juin par les autorités turques près de la frontière syrienne. Il avait ensuite été expulsé en juillet vers les Pays-Bas, selon le ministère néerlandais de la Justice. Et c'est dans ce contexte que les autorités belges ont été accusées de laxisme dans la lutte antiterroriste. Sachez aussi que le secrétaire d'État américain John Kerry arrive aujourd'hui à Bruxelles pour offrir le soutien de Washington à la Belgique dans la lutte contre le terrorisme.
Par ailleurs, en France, un homme suspecté d'être impliqué dans un projet avancé d'attentat a été interpellé jeudi en région parisienne. Une petite quantité d'explosifs a été retrouvée à son domicile à Argenteuil. Selon une source policière citée par l'AFP, des opérations de déminage et un vaste périmètre de sécurité ont été mis en place. L'homme a été interpellé dans une affaire d'acheminement de djihadistes vers la Syrie, selon une source policière. Des perquisitions se poursuivaient dans la nuit sans que ce projet semble avoir un lien avec les attaques qui ont frappé Bruxelles et Paris.
Le groupe État islamique a été la cible aujourd'hui d'une double offensive contre ses fiefs syriens de Palmyre et irakiens de Mossoul, appuyé au sol par le Hezbollah libanais et les forces spéciales russes. L'armée syrienne, également soutenue par l'avion russe, est entrée à Palmyre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et une source militaire syrienne citée par l'AFP.
Et c'est dans ce contexte que les États-Unis et la Russie souhaitent un projet de nouvelle constitution d'ici août en Syrie. C'est ce qu'a fait savoir, a indiqué jeudi soir, le secrétaire d'État américain John Kerry à Moscou au sortir d'un entretien avec le président russe Vladimir Poutine.
L'ONU au secours de la présidente brésilienne. Son agence ONU Femmes a dénoncé la violence politique d'ordre sexiste contre Madame Dilma Rousseff, menacée d'une procédure de destitution. Les précisions de Maïli.
ONU Femmes observe avec préoccupation le contexte politique brésilien et appelle publiquement à la sauvegarde de l'État démocratique et de droit, indique un communiqué de l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. En tant que défenseur des droits des femmes et des petites filles du monde, ONU Femmes condamne toutes les formes de violence contre les femmes, dont la violence politique d'ordre sexiste contre la présidente de la République, Dilma Rousseff, ajoute l'agence onusienne. La dirigeante de gauche vit son moment le plus difficile depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Elle est menacée d'une procédure de destitution sur des soupçons de maquillage des comptes publics. À cette bataille pour l'impeachment menée par l'opposition de droite s'ajoutent des révélations depuis des mois autour du méga scandale de corruption Petrobras qui a poussé des millions de Brésiliens à descendre dans la rue pour demander le départ de Dilma Rousseff.
Visite de Barack Obama en Argentine. Pour la première fois, un président des États-Unis a rendu hommage aux victimes de la dictature. Plus jamais ça, a-t-il déclaré lors de la commémoration des 40 ans du coup d'État appuyé par Washington. Le président américain a annoncé l'ouverture d'archives militaires de la CIA sur la dictature. Il s'est ensuite envolé pour les États-Unis.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
18,9 millions de francs suisses, c'est la somme perçue par Tidjane Thiam, le nouveau directeur général de Crédit Suisse, au titre de l'exercice 2015. L'information est contenue dans le rapport annuel de la banque publié hier jeudi. Sa banque a par ailleurs annoncé mercredi 800 millions de francs d'économies supplémentaires et un plan de restructuration destiné à redresser ses résultats. À cette occasion, Tidjane Thiam a dit avoir demandé à ce que son bonus 2015 soit diminué de 40%. La Banque ouest-africaine de développement, qui regroupe 8 pays africains et dont le siège est à Lomé au Togo, a tenu son conseil d'administration mardi à Dakar. D'après le magazine Jeune Afrique qui relaie l'information, l'une des principales décisions de cette session était l'octroi pour l'année 2016 de nouveaux prêts à court, moyen et long terme d'un montant cumulé de 118,5 milliards de francs CFA. Les différents États bénéficiaires sont le Burkina, le Bénin, le Sénégal, le Niger et le Mali. La Fondation Tony Elumelu a choisi 1000 entrepreneurs sur 45 000 postulants le 22 mars dernier pour le second round de son challenge Tony Elumelu Entrepreneurship Programme. Lancée en 2015, cette initiative philanthropique, étalée sur 10 ans, est dotée d'un budget de 100 millions de dollars. Le Nigeria, le Kenya, le Ghana, l'Ouganda et le Cameroun sont les pays les plus représentés.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John. On enchaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
Suite de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017 sur le continent.
Oui, Madagascar et la Centrafrique ont fait match nul un partout à Majunga dans le cadre de ces éliminatoires. Les fauves du Bazoubangui doublent provisoirement la République démocratique du Congo au classement du groupe B. Le Libéria est allé s'imposer à Djibouti 1-0. Avec 6 points, la Lone Star revient provisoirement à la hauteur du Togo à la première place du groupe A. Au terme d'un match interrompu par des pluies torrentielles, les Comores ont fini par battre le Botswana 1-0. Et puis malgré plusieurs occasions ratées, le Ghana a battu le Mozambique 3-1 jeudi à Accra. Avec 9 points sur 9 possibles, les Black Stars continuent donc leur sans faute. On rappelle Morgan que les premiers de chacun des 13 groupes seront qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes. Et bien évidemment, le Gabon en tant que pays organisateur de cette CAN 2017.
Pluie d'hommage à Johan Cruyff.
Oui, la disparition de Johan Cruyff, mort à Barcelone des suites d'un cancer hier, a provoqué évidemment de nombreuses réactions. Johan Cruyff fut le héros du football total, comme on l'appelait dans les années 70. Ensuite, il a réinventé le style du Barça, le FC Barcelone, qui est devenu depuis une référence dans le monde du football. Le monde du ballon rond unanime pour considérer l'homme comme l'un des maîtres incontestables. C'était le meilleur joueur de tous les temps, a déclaré Michel Platini, après l'annonce de la mort de cette légende du football.
Athlétisme, le TAS donne raison à la Fédération internationale contre les décisions de RUSADA.
Oui, le tribunal arbitral du sport a validé les appels de la Fédération internationale d'athlétisme contre les décisions de l'agence russe antidopage concernant les sanctions de 6 athlètes jugés incorrectes par l'IAAF. En janvier dernier, la RUSADA avait sanctionné 6 athlètes en raison d'anomalies dans leur passeport biologique en les suspendant de manière tronçonnée de façon le plus souvent à leur permettre de conserver les titres acquis dans les grands rendez-vous. Parmi eux, il y avait le champion olympique 2012 du 50 km marche, Sergei Kirdyapkin, c'est pas facile à prononcer, et 5 autres coéquipiers, dont 2 anciens champions olympiques et un ancien champion du monde, qui pourraient donc perdre leur titre. Le tribunal arbitral du sport a donc admis en appel et requalifié les sanctions des 6 athlètes russes. Enfin, Morgan, on termine avec vous par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
New Orleans, Indiana Pacers 84-92, Cleveland, Brooklyn Nets 95-104, Chicago a perdu face aux New York Knicks. 94-106. Et enfin, Utah Jazz a également perdu face à Oklahoma. Résultat 91-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guirec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première étape, le Congo-Brazzaville. Les populations ont diversement réagi à l'appel à la désobéissance civile du général Jean-Marie Michel Mokoko. Dans les quartiers sud de la capitale et à Pointe-Noire, où les forces de sécurité sont déployées, nombreux sont ceux qui estiment que l'officier congolais a raison de contester les résultats. Mais dans le camp du président réélu, Denis Sassou Nguesso, dont la victoire a été fêtée hier au quartier Mpila, l'appel à la désobéissance civile n'a pas raison d'être. De Brazzaville, notre correspondant Nguelan Goussou.
Quelques heures seulement après la publication des résultats à l'élection présidentielle, le général Jean-Marie Michel Mokoko, donné troisième avec 13% de suffrage, appelait à la désobéissance civile. D'après un message publié sur les réseaux sociaux, le peuple devait barrer la voie à ceux qui ont volé sa victoire. Dans les quartiers contestataires où militaires et armements sont déployés, les populations comprennent l'appel du général.
Tant que citoyen brazzavillois, s'il y a un mouvement de désobéissance civile, j'adhère parce que il est inadmissible que le président de la République ou que le pouvoir en place prenne des citoyens congolais comme des gens avec peu de considération. Vraiment, s'il y a un mouvement sérieux de désobéissance civile, j'adhère à ce mouvement.
Oui, moi je le soutiens. Quelle révolte, chacun son comportement. Si quelque chose se passe, que celui-là n'est pas d'accord avec ça, est-ce que ce n'est pas son droit de réagir?
Vraiment, ça se fait voir à l'œil nu. Chacun de nous est allé voter avec cet engouement-là. Et on sait qui a voté qui. Mais subitement, on est tombé sur des résultats du genre où ça révolte. Les gens en ont déjà marre, ont envie vraiment de riposter, mais on sait comment le pays fonctionne. Quand vous voulez riposter, c'est tous les agents qu'on met dans les ruelles pour étouffer la population.
Dans le camp du président Sassou Nguesso, la victoire à plus de 60% a été fêtée hier au stade Saint-Denis de Mpila. Ses partisans dénoncent l'appel du général Mokoko et invitent des partisans, des candidats malheureux à se joindre à eux.
Là-bas, ils ne fêtent pas. Pourquoi ils sont tous dans la mer? Pourquoi les marchés ne vendent pas de l'autre côté? C'est trop bête. Attends, il est général, il a pris quand même dans les écoles. Ça n'amène à rien du tout. On doit pouvoir aimer son peuple, pouvoir parler modérément. Lorsqu'il parle des obéissances civiques, mais je crois que ça ne marchera pas aussi. Parce que le peuple n'est pas dupe. Le peuple a vu tout ce qui se passe. Comment mon candidat a eu à parcourir tout le Congo?
Nous qui avons fait partie de la direction de campagne de Madjibou, nous avons été lynchés et jusqu'alors nous ne sommes plus dans nos maisons respectives, nous sommes dans des hôtels en ce moment.
La désobéissance civique n'est pas bonne, surtout que nous sachons que lorsqu'on fait la désobéissance civique, nous abîmons ce qu'on a construit. Si nous abîmons, comment est-ce qu'on va faire pour reconstruire? Nous repartons à zéro.
En entendant la publication des résultats par le camp des opposants, Brazzaville et Pointe-Noire sont toujours sous le qui-vive. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Cameroun, des partisans du président Paul Biya multiplient les appels pour qu'il organise des élections anticipées afin de se représenter. Mais pour les opposants, 34 ans au pouvoir, ça suffit. Et ce jeudi, chaque camp a essayé de montrer sa force dans les rues de Yaoundé. Un reportage de notre correspondant Omoki Edwin Kinzeka, rendu par Lionel Gaïma.
D'après la chanson, Paul Biya, notre leader, notre père, a 84 ans. Il est encore solide pour être président aussi longtemps qu'il voudra. Des messages et événements pareils se multiplient à travers le pays. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, célèbre son 31e anniversaire. Charlemagne Messanga Nyamdig, membre du comité central du RDPC, souhaite que Biya modifie la constitution et organise des élections anticipées.
Le secteur des Camerounais aime Paul Biya, ce qu'ils ont fait, ils l'aiment. Ils ont cru en cet homme-là, ils continuent de croire en cet homme-là et ils veulent continuer avec cet homme-là pour relever les défis parce qu'il a montré de par son expérience, de par son courage, de par sa détermination, qu'il est le meilleur à pouvoir nous protéger face aux incertitudes du présent et de demain.
À travers Yaoundé, l'opposition de son côté a essayé de donner la voix dans des contre-manifs. Pour la députée Patricia Ndam Njoya, le pays devrait se concentrer sur des questions plus urgentes, comme le développement, la réforme du code électoral et en finir avec Boko Haram qui attaque et tue dans l'extrême nord du pays.
C'est très curieux. On se demande pourquoi est-ce que, avec l'insécurité ambiante, les problèmes que les Camerounais connaissent aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le moment en plein mandat? Nous, vous ne trouvez pas qu'il y a un jeu? Nous, on pense qu'il y a mieux à faire au Cameroun aujourd'hui et on ne comprend pas cette précipitation, sinon qu'il y a matière à penser que le gouvernement est inquiet aujourd'hui.
L'élection présidentielle est prévue en 2018. L'opposition camerounaise était chaque fois allée en rang dispersée au précédent scrutin. Madame Joya estime qu'il est temps que les opposants fassent bloc derrière un candidat unique. Cette idée ne semble guère inquiéter Benoît Ndong, soumet, membre du comité central du parti au pouvoir.
Ce que l'on doit observer chez un dirigeant politique, c'est ce qu'il fait avec les moyens qu'il a pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Lorsqu'on appréhende la chose de cette manière-là, il faut être aveugle pour ne pas voir ce que fait notre président.
Monsieur Biya a fait modifier la constitution en 2008 pour éliminer le verrou de la limitation des mandats. À 84 ans, il est le plus vieux président africain après Robert Mugabe, qui vient de fêter ses 92 ans. Pour le moment, Paul Biya ne montre aucun signe de vouloir prendre sa retraite.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Nous partons maintenant au Burundi. Voilà plusieurs semaines que des jeunes reconnaissent à la radio-télévision avoir tué des sœurs italiennes et enterré des personnes dans des fosses communes. Affirmant être de mèche avec les opposants, ils disent travailler dans les quartiers contestataires, opposés au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, qui a été réélu en juillet dernier. Les opposants parlent, eux, de manipulation politique. Reportage de Christophe Nkurunziza de Bujumbura.
Clovis Kwizera, alias Désiré, témoigne à la radio-télévision nationale burundaise qu'ils étaient un groupe de 4 personnes avec un chauffeur quand ils sont partis tuer les sœurs de Kamenge. Ils avaient fait plusieurs réunions dans certains quartiers contestataires avant d'aller faire leur sale besogne à Kamenge en 2014. Mais les opposants au régime de Bujumbura indiquent que c'est un montage pur et simple organisé par le pouvoir car ce sont des gens proches du pouvoir qui ont commis cet acte ignoble. Pour la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kenyana, il y a plusieurs manières de faire des enquêtes.
La population burundaise et la communauté internationale qui nous écoute doivent comprendre que nous sommes à une étape où tous les éléments qui peuvent nous renseigner sur l'auteur du crime doivent être réunis. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer qu'il s'agit de telle ou telle autre personne. Attendons la décision du juge qui sera saisi pour le cas. Moi, je suis convaincue que tous les éléments n'ont pas été dévoilés. Ce qui fait que celui qui est en train de faire l'instruction du dossier a jugé que les informations qui sont en train d'être diffusées ne vont en rien entraver le cours de la procédure d'enquête.
Pour l'avocat Fabien Segatoi, ces jeunes qui font des aveux peuvent le faire en étant en prison car ils sont très dangereux.
Ces gens-là qui ont avoué avoir commis de tels crimes ignobles, j'insiste bien sur le crime ignoble, puissent se promener dans les rues uniquement en vertu du principe de rechercher la vérité. On peut donner la vérité même si on se trouve en prison. Et généralement, d'ailleurs, les gens qui passent aux aveux, ce sont des gens qui sont incarcérés mais qui avouent leur peine. Alors, avouer la peine, ça veut dire donner les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et donner les complices, les noms des complices et leurs identités complètes et pour permettre justement à ce qu'on puisse retrouver les auteurs de ces crimes. Et il ne suffit pas de dire j'ai commis une infraction, j'ai tué une sœur et ça suffit, non. Mais ces gens dangereux, il faut quand même qu'ils soient incarcérés parce que ce sont des gens dangereux.
Ce Ces jeunes qui font des aveux devaient voir la peine maximale de perpétuité réduite à 20 ans de prison selon l'avocat Ségatoire, qui indique que les autres peines doivent être divisées de moitié. La ministre de la Justice, Laurentine Kayana, indique que tous les jeunes arrêtés dans les attaques violentes ont été relâchés et que les autres jeunes arrêtés pendant les manifestations seront libres très prochainement. Mais des organisations de la société civile affirment que les manifestants croupissent toujours dans les différentes géoles du Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
République démocratique du Congo. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique vient d'accorder un don d'environ 43 millions de dollars au PAM. L'objectif est de soutenir ces opérations d'urgence et humanitaire dans le pays. Cette contribution permettra notamment d'apporter une assistance alimentaire aux personnes les plus affectées par la faim et la malnutrition en RDC. Charlie Kazereka, notre correspondant à Goma.
L'élo est composé de la farine de maïs et de l'huile végétale qui va permettre, selon les PAM, d'apporter assistance à environ 1,6 million de personnes vulnérables dans la province du Nord Kivu pour cette année. Pablo Recalde, représentant du PAM en RDC, l'a fait savoir lors de la cérémonie des remises et des cédants du peuple américain à Goma, soulignant tout de même que les besoins restent encore énormes dans cette partie de la RDC.
Près de 6 millions d'enfants, le futur de ce pays, ils souffrent de malnutrition sévère.
Cette généreuse contribution de l'USAID va permettre PAM de maintenir une capacité de réponse rapide dans les zones les plus difficiles d'accès affectées par le conflit. Cela aussi va nous aider significativement dans nos efforts en vue d'atteindre notre objectif de venir à l'aide de plus de 1,6 million de personnes cette année.
La moitié du stock pour cette aide a été achetée localement, question d'accompagner les efforts des agriculteurs dans la province. Selon l'ambassadeur des États-Unis en RDC, M. James Swan, qui est venu personnellement remettre cette aide, parle d'une stratégie pour appuyer directement le développement dans cette région meurtrie par des guerres à répétition depuis plus de 20 ans.
Compte tenu de l'environnement sécuritaire complexe et d'importants besoins humanitaires dans l'est de la RDC, l'appui des États-Unis au PAM et à d'autres acteurs constitue un élément clé de la stratégie globale des États-Unis dans la région. Mais je crois un aspect innovateur de ce don et de cette activité, à peu près la moitié de cette contribution sera consacrée aux achats locaux. Alors à la fois répondre aux besoins des personnes en besoin, mais aussi contribuer au développement du secteur agricole à travers la production privée.
Pour le gouvernement provincial, cette aide particulière est appréciée, mais signale tout de même que des efforts doivent être fournis pour faciliter les retours de ces populations dans leur milieu d'origine où le calme serait revenu. Maître Feller Lutai Chiroa est le vice-gouverneur au Nord Kivu.
Grand merci que nous réitérons au peuple américain à travers votre autorité. Nous promettons comme gouvernement provincial que nous ne manquerons pas de mettre en place un mécanisme non seulement d'appropriation, mais aussi d'accompagnement pour que l'impact attendu soit le plus efficace possible. Il faudra que les vrais déplacés retournent chez eux et que les autres personnes non identifiées, nous sachions comment les orienter.
La province du Nord Kivu compte environ 50 sites abritant plus de 600 millions de déplacés internes qui ont été obligés de fuir leurs milliers suite aux conflits armés dans cette région de la RDC. Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine. Vos points de vue dans RM Show, envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Mister, hey.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde Michel Joseph, présentation Morgane Guirguec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook où vous pouvez partager vos impressions, vos photos ou poser des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.